franceinter.fr.
Alain Baraton, vous êtes revenu.
Je suis avec vous, bonjour.
C'est l'heure de la main verte. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
À Lyon.
On va à Lyon, sans son tunnel de Fourvière. Serait-il vraiment Lyon ?
Eh bien, c'est la question que l'on peut se poser. Ce tunnel qui a été inauguré en 1971 et depuis cette date, il accumule les records de bouchons, mais promis juré, de nouveaux aménagements vont demain permettre de le supprimer. C'est du moins, bien sûr, ce que l'on dit depuis plus de 20 ans. En attendant, vous serez prêts aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, près de 140 000 automobilistes à apprécier ces 1853 mètres de longueur de pollution, de bruit et d'obscurité. Bon courage à vous.
Vous avez bien dit aujourd'hui, juste
oui.
Aujourd'hui.
Eh oui, je parle bien d'une moyenne. D'accord. 140 000 visiteurs automobilistes en juillet-août sous le tunnel.
Alors vous proposez quoi pour éviter les embouteillages ?
Eh bien de sortir de terre, tout simplement. Et d'aller au-dessus, juste au-dessus, visiter l'un des plus beaux et des plus grands parcs de France, la Tête d'Or. Il existe depuis 1857. 1857, c'est aussi la date de création d'ailleurs de Central Park à New York, je le dis à titre indicatif. Et le parc de la Tête d'Or, lui, offre 117 hectares, c'est colossal, de verdure. Et pas seulement, il y a une plaine africaine de savane, des zones humides et une forêt dans laquelle vivent, écoutez bien, des centaines d'oiseaux, des tortues, deux crocodiles du Nil et des mammifères comme Lulu. Lulu. J'espère qu'elle est toujours vivante. C'est la femelle gibbon qui est née en 1961, qui est bien sûr la mascotte et des enfants et du personnel. Et Lulu est la doyenne de toutes les femelles gibbons vivant sur Terre.
Alors le parc de la Tête d'Or, c'est surtout un jardin d'agrément, mais une partie est quand même consacrée à la botanique.
Et oui, il y est cultivé, c'est considérable, près de 15 000 plantes originaires de tous les continents. Il faut aussi et surtout visiter les serres, des serres superbes qui vous transportent en Amazonie ou en Afrique du Sud. Cet endroit présente l'une des 10 plus belles collections végétales au monde. Alors les jardiniers et les chercheurs qui sont nombreux, ils font aussi pousser des plantes carnivores étonnantes ou encore des plantes équatoriales utilisées pour se soigner ou pour être dégusté, je pense au chocolatier et au caféier. On peut aussi voir le Victoria Amazonica. Vous savez, c'est une plante qui ressemble à un nénuphar géant et il présente des feuilles si larges, presque un mètre, qu'un enfant pourrait monter dessus et se promener sur l'eau.
Ah oui, Il est possible de découvrir aussi une exposition de photos à l'orangerie.
Et oui, car il y a aussi une orangerie. Et cette exposition s'intitule « Vengeance, curiosité végétale ». Elle présente des photos d'arbres qui semblent dévorer barrières et panneaux de signalisation. Les œuvres exposées sont de Michel Parolet.
Alors une petite question à présent pour les curieux. Pourquoi le parc se nomme-t-il ainsi « Parc de la Tête d'Or »
Eh bien, je suis persuadé qu'au moment même où nous parlons, des Lyonnais se posent la question. Ils fréquentent le parc peut-être depuis
même des
années.
Même des Lyonnais.
Eh bien oui, parce que quand j'avais découvert ce parc il y a longtemps, j'avais posé la question à des gardiens qui n'avaient pas été capables de me répondre. Eh bien, nous allons donc donner l'explication. Elle est simple. Une légende prétend qu'une tête de Christ en or serait enterrée dans le jardin. L'occasion de rappeler que les fouilles sont strictement interdites.
J'allais vous demander si quelqu'un avait déjà essayé de piocher.
Je pense qu'il y a des petits malins qui doivent s'amuser à chercher. Ce n'est qu'une légende, donc on ne fait pas de trou dans le parc de la Tête d'Or. On le visite, l'endroit est merveilleux, vraiment, et de grâce. Donc la prochaine fois que vous allez dans le sud et que vous passez par le tunnel de Fourvière, partez en amont, sortez, visitez le parc. Il n'est même pas dit que vous arriverez plus tard sur votre lieu de vacances.
Voilà, il faut faire un détour absolument par le parc de la Tête d'Or.
Oui, tout à fait. Oui.
Et on va commencer à répondre aux questions des auditeurs.
Avec joie.
Alors, la première nous vient de Charles-Henri, qui est effrayé par la vigueur de son kiwi. Que faire s'il ne réagit pas? Il n'aura plus de terrasse demain. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Eh oui, le kiwi est une plante vigoureuse, Lactinidia.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. La plante, ce n'est pas le kiwi, c'est le fruit.
Voilà,
la plante s'appelle...
Ben, Lactinidia, tout à fait, on l'appelait autrefois, d'ailleurs le fraisier de Chine, c'est une autre histoire. L'occasion de rappeler que c'est marrant parce que les botanistes n'ont pas toujours été capables de donner des noms aux plantes. Par exemple, le pied de tomate, on appelle ça un pied de tomate, ça s'appelle pas un tomatier. Mmh. Pied de tomate, comme le potiron. Le potiron, c'est le nom et du fruit. Je ne sais pas. Toujours est-il que le kiwi, donc, est une plante très vigoureuse qui produit des lianes qu'il faut pas lisser. Et il est vrai que si on laisse la plante se vivre sa vie, eh bien, elle devient rapidement envahissante. Eh bien, il est tout à fait possible, maintenant, bien entendu, de réduire, eh bien, l'extension, les velléités, d'envahissement du végétal en coupant tout ce qui dérange. Tout simplement, on peut y aller sans aucun scrupule.
On peut trouver des kiwis partout, en fait. Plaît bien dans les températures plutôt tempérées.
On a toujours l'impression, on a toujours tendance à croire que le kiwi aime la chaleur. C'est une plante qui est originaire de Chine, qui est ensuite arrivée en Nouvelle-Zélande et qui a même besoin, voyez-vous, du froid, du gel, pour geler, pour donner un goût agréable aux fruits. Donc oui, le kiwi peut parfaitement être installé En France, dans le jardin, il n'y a aucun problème.
Et je peux même dire en Bretagne, c'est tout à fait possible, ça marche très bien.
Mais tout à fait, mais le climat breton est excellent.
Une question de Patricia. Mes rosiers sont couverts de fleurs fanées et ce n'est pas beau. Puis-je les supprimer ?
Mais seriez-vous bretonne à tout hasard ?
Vous m'avez percé à jour, je crois.
Je me posais la question. Alors, pour les rosiers, là encore, savez-vous, Hélène, quelle est la meilleure méthode pour donner de la vigueur à un rosier ?
Bah non.
Eh bien, c'est de couper les fleurs fanées. Je vous explique en deux mots pourquoi, vous allez vite comprendre. Quand vous avez une fleur, enfin, quand vous avez un rosier, il va faire des fleurs. Il fait des fleurs dans l'espoir de se multiplier. La fleur va donc se transformer en graines. Or, ce sont les graines qui épuisent le végétal. Si vous supprimez les graines en train de se former, eh bien, vous évitez à la plante de se fatiguer. Donc oui, en coupant les fleurs fanées, un, on redonne au rosier une belle apparence, une apparence esthétique. Deux, on lui évite de se fatiguer, donc il sera davantage productif les années suivantes.
Allez-y Patricia, coupez vos fleurs fanées.
Bien sûr, et c'est valable en priorité sur les rosiers grimpants d'ailleurs.
Question de Bénédicte à présent. Les potagers vendus en kit et qui permettent de cultiver en carré et en hauteur, sont-ils de bonne qualité ?
Ils sont toujours efficaces, parce qu'au début je me posais la question, alors de qualité, tout dépend bien sûr des kits. C'est comme dans tout, hein. Il y a le pire côtoie le meilleur. Mais il est vrai que j'aime bien l'idée de ce genre de potager parce que je pense aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées, aux personnes âgées qui ont du mal à se baisser. Eh bien, l'avantage de ces carrés de potager, c'est que cela vous permet à 1 mètre ou 1 mètre 50 de hauteur parfois de cultiver à hauteur de main, eh bien, des radis, des tomates. C'est pas seulement utile à produire des végétaux, mais si c'est suffisant pour vous redonner le sourire et vous donner une petite activité dans la journée, eh bien, ça suffira à mon bonheur. Donc oui, c'est bien. Alors après, il y a la qualité du potager. Pas la peine de mettre une fortune. Pas la peine non plus d'acheter des terreaux complètement dingues. Apprenez à faire votre compost, même en ville, même sur votre balcon. Mais oui, c'est donc une très bonne idée.
Allez, encore une petite question de Régine. À quelle distance de la clôture puis-je planter des framboisiers ?
On fait simple. Tous les végétaux dont la hauteur adulte est inférieure à 2 mètres sont plantés à un minimum de 0,50 m. Au-delà de 2 mètres, eh bien, vous devez planter à plus de 2 mètres. Attention, en ville, dans le cœur des villes, il peut y avoir des règles légèrement différentes, mais en général, donc, on peut planter parfois au niveau même de la clôture, au ras de la propriété. Donc, il faut consulter la mairie pour être certain qu'il n'y a pas de souci. Mais généralement, donc, les arbres d'une hauteur ou arbustes supérieurs à 2 mètres seront mis à 2 mètres de la clôture. Inférieurs à 2 mètres adultes, on les mettra à 50 cm. Les framboisiers peuvent donc se mettre à 50 cm. Mais là aussi, il y va aussi d'une question de voisinage. Si un voisin ne supporte pas d'avoir au niveau de sa clôture des framboisiers, c'est que le voisin a quand même quelques problèmes cérébraux. Parce que, un, c'est pas du tout inesthétique. Deux, c'est
même peut-être piquer une petite
framboise. Mais oui, c'est même agréable d'avoir la petite branche qui apparaît. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs une petite question de droit qui est assez amusante. Quand vous avez un arbre fruitier qui a une branche qui passe au-dessus de la clôture et au bout de la branche, un fruit, le fruit appartient au propriétaire de l'arbre. Vous n'avez donc pas le droit, vous, chez vous, de le cueillir. Mais par contre, si le fruit tombe, mais tombe naturellement, alors une fois qu'il est à terre...
Vous pouvez. Et puis comme on s'entend bien entre voisins, en général, ça pose pas trop de problèmes.
Moi, avec les miens, non, mais vous, oui, apparemment. Ouais. Non.
Vous êtes venu avec quelque chose aussi, vous n'êtes pas, pas les mains vides.
Une revue, merveille, merveilleux, ces mots sont des seuils, ils ouvrent des passages, les reconnaître, les sonder ou les franchir, voilà la raison d'être de la revue Mirabilia. Eh bien, la revue Mirabilia produit des textes, c'est merveilleux, le numéro 11 est passionnant, le chemin, c'est le printemps 2017, et c'est publié par la goutte d'eau.